business avec Ray Lalonde.
Ceux qui écoutent mon émission depuis quelques années savent très bien à quel point j'ai un bonheur renouvelé de pouvoir parler avec l'expert sport et business Ray Lalonde, qui a un parcours professionnel, ma foi, fascinant, avec des expériences tant à l'Université Penn State que dans la NBA également et avec le Canadien de Montréal. Mais on vous informe, je vous rappelle, parce que je l'ai dit en début d'émission, qu'à compter de ce soir, ce sera une chronique hebdomadaire. Pas toujours le vendredi, mais on va essayer de se fixer le vendredi comme rendez-vous pour parler avec Ray. Salut Ray!
Salut Dan, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Très content qu'on en soit venu à cette nouvelle collaboration. Et c'est pas l'action qui manque dans le domaine sport, business et marketing cette semaine. Débutons notre chronique de ce soir avec ce scandale qui éclabousse le baseball majeur, les Astros de Houston. Aujourd'hui, encore du nouveau dans l'histoire avec l'information qui sort à l'effet que les joueurs des Astros avaient de l'équipement technologique et électronique sous leur chemise de joueur. Ça va finir où, Ray, ce scandale-là?
Bien, si on regarde un peu là, l'historique des Astros, là, on parle de la saison 2017,
oui,
où ils ont gagné la Série mondiale en fin de saison. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un des adjoints à l'entraîneur-chef, Alex Cora. On le connaît, puis on est familier avec son nom, parce qu'ensuite, il est devenu gérant des Red Sox. Et
ouais,
eux aussi ont gagné la Série mondiale.
Ouais, c'est ça.
Alors, Alex Cora, là, au moment où il était avec les Astros en 2017, a concocté une espèce de stratagème entre les gens des opérations baseball dans le studio, dans le stade local des Astros, pour dépister à la télédiffusion les signaux du receveur de l'équipe adverse, de façon à savoir un peu à l'avance si on est capable d'anticiper les lancers. Bon, comme vous connaissez le baseball un peu, c'est pas un secret, ça, l'intrigue autour des signaux dans le baseball. Quand on était jeune et on jouait au baseball mineur, on cachait les signaux, on voulait pas que l'équipe adverse sache qu'on était à la veille de faire un coup retenu ou on était à la veille de voler le deuxième but, et ainsi de suite. Tandis que le receveur, lui, ben, il parlait via les signaux entre le gérant au banc et le lanceur au monticule. Alors, ça a toujours été partie prenante du baseball. Sauf que, à part de tenter de déchiffrer ça à l'œil, de façon humaine, il n'y avait pas vraiment eu d'implication technologique sophistiquée jusqu'à l'arrivée des Astros en 2017. Où là, il y a eu un système qui est parti d'une diffusion télé, puis qui est devenu comme « installons nos propres caméras, trouvons une façon de connecter le message une fois qu'il a été déchiffré jusqu'au banc des joueurs, ou le « dugout » si on veut », et rapidement au frappeur pour que le frappeur puisse anticiper avec la demi-seconde à peu près qu'il y a avant que la balle se rende au membre, si c'est une balle rapide ou une balle à effet. Et ça change tout, ça. Parce qu'une fois que tu sais ce qui s'en vient, évidemment que tes chances de frapper la balle en lieu sûr augmentent. Alors, on s'en va à la fin de la saison 2017, Dan, et les Astros ont vaincu coup sur coup les Red Sox, les Yankees et les Dodgers. Pas les trois petites équipes du baseball. Les trois légendes mythiques du baseball majeur.
Ouais.
Et ils l'ont fait en frappant tellement mieux à domicile qu'à l'extérieur. Et ça a été la différence pour plusieurs joueurs, dont deux qui ont été mentionnés dans les derniers jours, José Altuve et Alex Bregman. Mais entre-temps, depuis le rapport déposé par le commissaire lundi, trois gérants d'équipe ont été congédiés.
Oui.
Celui des Astros, celui des Red Sox, Alex Cora, qui était l'instigateur, et celui des Mets, Carlos Beltran, qui n'a même pas commencé à diriger un match parce qu'il était nommé en novembre. C'est 10% du baseball majeur. Et le dossier n'est pas terminé. L'enquête se poursuit. Parce que là, on est en train de savoir que d'autres anciens joueurs auraient dénoncé les tactiques des Astros. Alors, quand on parle de sport, là, Dan, on sait que c'est important de gagner, puis on sait que tout est dans la victoire au niveau professionnel parce que les gens gardent leur job puis les gens font des centaines de millions de dollars. Il y a des milliards de dollars d'impliqués dans l'enjeu de la victoire. Mais est-ce que ça vaut la peine de perdre un peu ton compas là, et tes valeurs morales et l'intégrité que tu viens de sacrifier dans les yeux des consommateurs, des fans de baseball, des partisans partout? Parce que là honnêtement, il n'y a pas quelqu'un qui peut croire que le baseball est intègre. parce qu'on avait un système de tricherie sophistiqué où la technologie a pris les devants, Dan, sur, mettons, les moyens de se défendre. Et ça, c'est triste pour le baseball. Et c'est pas fini. Moi, je considérerais, sérieusement, si j'étais Rob Manfred, enlever le championnat aux Astros, mettre un astérisque. Tu peux pas le donner aux Dodgers,
non,
ils ont pas gagné.
On peut pas le donner, non.
Non, mais tu pourrais l'enlever, par exemple, oui, parce qu'ils l'ont pas gagné de façon honnête. Et surtout, je regarde José Altuve, que je trouvais toujours comme un joueur impressionnant, là, mais je réalise que sa moyenne, c'est quasiment 100 points de plus à domicile plutôt qu'à l'extérieur.
Oui.
Ben, lui était une partie intégrante de la tricherie. Vous pouvez le voir sur YouTube à deux, trois endroits différents. Un, il resserre son chandail à deux mains. Il y en a un autre qui a un close-up, un focus sur son épaule puis un appareil qui semble être caché en dessous. Mais surtout, quand ils ont gagné le championnat en 2017, au lieu de célébrer sur le terrain, il y a une vidéo sur YouTube qui va vous montrer Altuve courir directement dans le vestiaire, enlever son chandail et revenir célébrer avec ses coéquipiers par la suite avec un T-shirt de champion. C'est absolument épouvantable ce qui arrive au baseball.
Est-ce que c'est le plus gros œil au beurre noir de l'histoire du baseball?
Oui. Hey, écoute, Dan, Pete Rose, c'est des peccadilles. Le fait d'avoir parié sur le baseball en tant que gérant des Reds dans les années 90, honnêtement, puis lui, il est banni à vie, puis on peut pas le prendre au temple de la renommée. C'est lui qui a le plus grand nombre de coups sûrs dans l'histoire du baseball. Dieu sait que c'est un joueur du temple de la renommée. Et on continue de le bannir. C'est vrai qu'à l'époque, c'était interdit. Mais aujourd'hui, on parie sur les matchs de baseball et de basketball et de hockey partout. C'est permis parce que c'est une business commerciale. Alors, Pete Rose, il n'a pas affecté le résultat d'un championnat et il n'a pas pris avantage pour les Reds. Mais ce que les Astros ont fait, c'est qu'ils ont triché pour se donner un avantage compétitif. C'est inacceptable. Le plus gros scandale du baseball, et c'est pas terminé.
Tu vas être d'accord avec moi que maintenant, il n'y a personne qui peut arrêter de douter. On va se mettre à douter de tout.
Et voilà.
Dans quelle mesure le championnat 2018 des Red Sox, étant donné que c'était Alex Cora qui était le gérant, dans quelle mesure on peut douter de ça? Et dans quelle mesure on peut penser que Cora a essayé le même genre de stratagème à Boston qu'il avait fait à Houston l'année précédente?
Et Dan, je suis obligé d'être d'accord avec toi à 100% parce qu'Alex Cora, honnêtement, je peux pas imaginer le jour qu'il va retourner gérer dans le baseball majeur. J'ai de la difficulté à imaginer à José Altuve avoir une carrière dans le baseball après la saison dernière parce que je pense qu'il va être banni à vie. Et je crois aussi que les Astros, on va leur enlever le titre, ce qui va être la plus grande pénalité de l'histoire du sport. Ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, l'enquête se poursuivra maintenant du côté des Red Sox.
OK.
Et Rob Manfred et son équipe ont une obligation morale de préserver l'intégrité en allant au fond de tout ce qui a été associé aux Astros de Houston, donc les Red Sox. Mais une chose qui est claire, Dan, c'est que Manfred a un petit conflit. Il travaille pour les propriétaires. Il se doit de les rendre riches. Mais d'un autre côté, il se doit de les pénaliser. Il se doit de réglementer ses patrons. Alors, il est un peu coincé entre les deux. Et à date, j'ai pas vu trop de propriétaires d'équipe se plaignent des Astros. J'ai vu des anciens joueurs souligner les faits. Mais les autres propriétaires ont été très silencieux jusqu'à maintenant. Intéressant comme question.
OK. Toi, tu es un expert sport et business. Supposons que l'été prochain, je me retrouve avec mon frère dans une ville, comme on l'a fait cette année au mois de juin, on est allé voir les Cubs et les Brewers. Mettons qu'on se retrouve dans une ville où il y a du baseball. Une ronde de golf, on est en vacances, on est là 3-4 jours, puis à un moment donné, je propose à mon frère d'aller voir une game de baseball où lui me dit « On va-tu voir du baseball? » C'est impensable, en tout cas, à moins que je change beaucoup dans les prochains mois, Ray, c'est impensable pour moi, à date d'aujourd'hui, de répondre à mon frère « Ah non, non, hey, moi je vais pas voir ça, c'est un sport qui est arrangé, c'est corrompu, les Astros ont triché. » C'est certain que je vais aller voir la game de base, j'aime ça.
Oui.
Donc, voici ma question, ça va être quoi l'impact négatif pour les baseball majeurs en termes marketing?
Ben, c'est une excellente question, comme tu les poses tous, Dan. Je veux te dire que les Américains, les Nord-Américains, mais surtout les Américains, pardonnent assez rapidement les scandales et les comportements. On a tendance à oublier au niveau des célébrités, pas juste dans le sport, là, mais même tu sais dans le monde de la musique, du cinéma et les arts. Bon, mais Dieu sait que ça laisse une cicatrice permanente aux yeux de certains puristes. Et je suis pas certain que les jeunes consommateurs d'aujourd'hui, qui déjà, Dan, trouvent que le baseball, c'est long, et c'est un peu lent comme jeu, et c'est pas toujours excitant dans les premières manches. Puis il y a toujours des pauses entre chaque lancée.
Oui.
Puis tous les facteurs que le baseball tente de corriger légèrement de façon favorable vis-à-vis une nouvelle génération de jeunes consommateurs, moi, je suis pas certain qu'eux autres vont pas prendre ça comme étant, bon, ben regarde, en plus, c'est même pas correct comme mentalité, comme code d'éthique. Alors, oui, il y a des puristes, tu sais, des gens qui adorent le baseball pour les stades, pour la beauté du jeu. Tu sais, c'est quand même merveilleux de voir un match de baseball. C'est tellement agréable et récréatif en groupe parce que c'est un événement social pas trop stressant. Tu sais, puis tu peux rater quelques manches puis t'as rien raté du match. Mais pour une jeune génération de consommateurs où il y a tellement de compétition, moi, je pense que ça va faire très mal au baseball.
OK. On va s'en reparler évidemment dans les prochaines semaines. Là, c'est comme tu as dit tantôt, c'est loin d'être terminé. Passons maintenant aux Canadiens. Ton collègue d'RDS, Pierre Lebrun, a dit dans les derniers jours, j'ai parlé avec Marc Bergevin, pas question qu'il échange Price et Weber. Pourtant, tous les amateurs, tous les observateurs sont d'accord que les deux vont être trop vieux une fois que le Canadien va être bon, comme nous le promet Marc Bergevin. Est-ce que dans ce cas-ci, en date d'aujourd'hui, de ne pas vouloir échanger Price et Weber, c'est Jeff Molson qui fait passer le marketing de l'équipe avant le désir d'améliorer l'équipe de hockey?
Je suis pas certain que c'est une question de marketing autant que c'est une question de justifier les dépenses encourues pour obtenir chez Weber, c'est-à-dire échanger Subban,
oui,
et pour signer Price à 10,5 millions.
OK.
C'est parce qu'à quelque part, tu as une question aussi, là, regarde, quand tu fais un choix, quand tu repêches un joueur de haut niveau, tu veux lui donner toutes les chances de réussir pour aussi prouver que tu es dépisteur puis que toi, comme directeur gérant, tu as fait le travail puis c'était le bon choix. Alors, je pense que c'est plus une question que Price et Weber sont des vétérans dans une équipe de jeunes. Price est le plus ancien des Canadiens. Et c'est le dernier joueur qui était là quand j'étais là, jusqu'en 2011. Ça fait déjà 9 ans et il est encore là. Avec raison. Tu vois, qu'il est encore capable d'excellentes performances. Mais je veux pas rentrer trop dans la spéculation hockey, mais personnellement, c'est juste que je comprends pas trop la direction de l'équipe. On dirait que l'équipe est sur la clôture vis-à-vis une reconstruction. Ils ont peur de ce mot-là, évidemment. Ou vis-à-vis ce qu'on appelait en anglais le « reset », c'est-à-dire oui, on fait juste se réaligner un peu, modeler notre équipe. Mais c'est quoi qu'on est? Parce que là, notre plan, de toute façon, ça va être la 4e année sur 5 que l'équipe ne se qualifiera pas pour les séries. On a Price qui vieillit, coûte très cher, moins attrayant pour d'autres équipes. Weber, ben, il a une excellente saison, mais il ralentit toujours graduellement de jour en jour. C'est pas le même chez Weber qu'avec les Prédateurs. Mais ça veut pas dire qu'on a fait un mauvais échange avec l'échange de Subban. Ça veut juste dire qu'il vieillit, lui aussi, prend de l'âge. Alors, à quelque part, les Canadiens ont un choix à faire. Sacrifie tout de suite pour remplir un peu les paniers de choix au repêchage, puis laisse aller tes vétérans et mets un X sur la saison. Ou essaie d'étirer ces gars-là au maximum pendant que les jeunes se développent plus vite. Mais rappelle-toi ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il y a 30 autres équipes dans le hockey qui veulent gagner autant que les Canadiens et font tout ce qui est possible, que ce soit limoger un entraîneur de qualité comme Gérard Gallant avec une fiche gagnante puis 2 saisons à succès en pleine saison parce qu'ils croient que ça va être mieux avec Peter DeBoer. Il n'y a rien pour arrêter les désirs des équipes assoiffées de victoire.
OK. Je parlais avec un chum qui est propriétaire d'un bar sportif à Québec, puis je disais, ouais, les Canadiens vont manquer série 4e fois en 5 ans, comme tu viens de le dire, Ray. Je disais, Caroline, ça va faire mal pour avril. Le mois d'avril va être moins hot que peut-être d'autres années où ils ont fait les séries. Il dit non, il dit c'est pas le mois d'avril comme tel qui fait mal. Il dit c'est au moment où l'équipe est officiellement éliminée, sans dire mathématiquement, c'est au moment où tout le monde abandonne et arrête de suivre le hockey. Là, ça commence à faire mal. C'est le constat que tu fais comme expert marketing?
Oui, et je pense que on le voit là, graduellement, l'érosion, le désintéressement. Lundi soir contre Calgary, il y avait beaucoup, beaucoup de sièges vides. Et Dan, tu sais que plusieurs de ces sièges-là ont été vendus, mais les gens ne se présentent pas au match. C'est-à-dire qu'on, si tu me permets, là, on mange nos billets. On a payé 200, 250, 300 $ et on a choisi de rester à la maison.
Ou on essaie de les donner puis personne ne les veut.
Et voilà. Alors ça, c'est un triste dénouement, une conclusion un peu désespérée là, qu'on est en la mi-janvier et le club ne nous donne pas d'espoir. Un excellent match hier soir, mais un très mauvais match mercredi. Alors, on est irrégulier, on est imprévisible. Les partisans veulent s'appuyer sur quelque chose. Je pense que l'an dernier, là, l'équipe était au moins plus constante Même si elle a raté les séries, c'était agréable, c'est une surprise. Elle a terminé à un point, si ma mémoire est bonne. Mais là, cette année, deux séries de 8 défaites. Peu importe le dénouement de scénario, là, dans certains de ces matchs-là où le Canadien a bien joué, c'est dur pour les partisans, encore une fois. Puis, de plus en plus, il y a une irritation. On lance la serviette et on s'éloigne et on trouve autre chose qui est le défi pour tout le monde. On a toujours autre chose de mieux qu'on peut faire que d'aller au Centre Bell, ben, encourager une équipe qui nous donne pas ce qu'on espérait avoir.
OK. La saga des Alouettes, sans dire a pris fin, a connu un dénouement dans les derniers jours. Des Ontariens qui sont venus acheter les Alouettes de Montréal, on a confié à Mario Cecchini et à Danny Machocha, l'ancien des Carabins, de relancer l'équipe comme président et comme DG. C'est quoi leur défi maintenant, Ray?
Le plus gros défi, je pense, c'est le défi commercial. Parce que l'équipe était quand même performante l'an dernier. En tout cas, il y a eu 3-4 matchs avec des revirements là, puis des remontées spectaculaires là, qui ont donné à tous les gens là, l'envie de suivre l'équipe. Mais le défi commercial d'une équipe comme les Alouettes, c'est-à-dire la connexion, pas avec le fan, mais avec les corporations, les entités commerciales, les partenaires marketing, qui, eux, doivent signer dans des chèques de 500 000, 600 000, 700 000 pour commanditer, là, m'a dire ça, c'est pas facile à convaincre. Parce que ça veut dire qu'une entreprise doit croire que les Alouettes, non seulement ont tourné la page, puis il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire, mais que les Alouettes en valent la peine. Que les Alouettes vont attirer l'intérêt de tous et, si on veut, augmenter le trafic dans leur industrie, dans leur business, suite à l'association avec la marque des Alouettes. Ça, ça prend quelques années. Fait que Danny Machocha, comme directeur gérant, ben, écoute, si le carrière Vernon Adams joue comme il a joué l'an dernier, puis les Alouettes réussissent à être compétitifs, ben, son travail à lui, en tout cas, va être beaucoup plus rapide. Mais le travail de Mario Cecchini, de connecter les entreprises québécoises à cette équipe-là dans un marché ultra concurrentiel avec une équipe de soccer qui s'appelle l'Impact qui souffre de plusieurs des mêmes défis, mais qui a des plus gros budgets, ben c'est pas facile. Le Québec est particulier comme marché, le Québec entier, là, c'est-à-dire que on est sensible au succès, on est attiré par la victoire, on est déçu des performances de nos équipes depuis quelques années, et on est aussi un petit peu proche de nos poches. Fait qu'on fait attention à ce qu'on dépense comme dollars loisirs. Et on est partout, on est comme partout sur la planète, Dan. On a accès à tout de toute façon sur le numérique. Alors, on n'a pas besoin nécessairement. Tu me dis souvent, là, William est allé voir des matchs à la NFL. Toi, tu étais aux États-Unis, au golf, au baseball et tous les sports. On est des consommateurs de produits de qualité. Puis si nos équipes nous l'offrent pas, on va le trouver ailleurs.
Exact. Dernière question que j'ai pour toi. La retraite cette semaine annoncée pour Luke Kuechly des Panthers de la Caroline. 28 ans seulement. De plus en plus de joueurs quittent tôt la NFL. C'est une mauvaise nouvelle pour le produit de la NFL?
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, OK.
Ouais, parce que moi, je pense que la mentalité là, de gladiateur, là, de warrior qu'on appelle, là, c'est en train de s'atténuer.
OK.
Et je pense que la NFL va en profiter de deux façons. Premièrement, il va y avoir plus de jeunes joueurs qui vont arriver parce qu'il y a plus d'opportunités, de positions et de jobs qui vont se libérer parce que les joueurs vont jouer moins longtemps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça démontre qu'il y a un certain niveau d'expérience puis de maturité qui est en train de prendre place dans la NFL où les joueurs gagnent bien leur vie plus tôt, planifient leur avenir plus tôt, sont capables de se retirer en meilleure santé. Ils n'auront pas besoin de sortir du terrain en chaise roulante, parce qu'ils auront été handicapés par leur sport, parce qu'ils auront été battus physiquement et dans 10 ans, 20 ans, ne pourront plus avoir une qualité de vie acceptable.
Okay.
Ça, c'était une triste conclusion des années 70 et 80 et 90. Alors là, les gars comme Luke Kuechly, Oliver Luck, jusqu'à des Barry Sanders, mais ces gars-là ont choisi Calvin Johnson, le receveur de passe des Lions. Ces gars-là ont choisi de se retirer plus tôt pendant qu'ils avaient encore pleine possession de leurs moyens. Et parce qu'ils ont peut-être l'opportunité de passer à la deuxième phase de leur vie d'affaires, devenir des investisseurs, des hommes d'affaires, des producteurs, avoir une carrière après le terrain.
Exact.
Et ça, faut les féliciter pour ça. Alors, c'est une excellente nouvelle et je pense que c'est triste pour les joueurs parce que tu le sais, les joueurs de football ont une caractéristique, c'est le sport ultime d'équipe. Et deuxièmement, il y a un amour éternel pour le football. J'ai joué au football, ça m'a fait tellement de peine d'arrêter de jouer moi-même, puis j'avais pas le talent de ces gars-là, là. Mais je sais comment c'était dur pour lui de l'admettre, de quitter, prendre sa retraite. Mais dans quelques mois et dans quelques années surtout, il va pouvoir vivre une belle vie en pleine santé et avoir d'autres opportunités s'il a bien investi son argent.
Fort intéressant. Gros merci, Ray. Bon week-end à toi.
Salut, Dan. Bon week-end à tout le monde.
Salut bien. Ray Lalonde, expert sport et business, à qui on parle ou à qui on va parler chaque semaine dans l'avant-match.